Merci Étienne. Bonjour à tous. Mais avant que j'oublie, avant tout, quand même Valentina m'a dit de vous dire un bonjour. Elle est restée pour faire des choses, mais aussi parce que sa mère arrive de l'Argentine. Du coup, elle aime bien préparer les choses, que tout soit propre. Donc, ce matin, vous avez vu dans les bulletins quoi de neuf. C'est que nous allons partager. Et dans mes réflexions, je savais que vous êtes aussi dans les thèmes du disciple. Et à la chapelle aussi, pas le thème de l'année, mais on parlait sur ça. Ben, ça, c'est bien qu'on parle tous. Du coup, la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont des disciples de Jésus vont séjourner toute l'éternité avec lui. Pour nos vies, ça, c'est une excellente notice. Ça nous rendre joyeux. Si un disciple de Jésus a bien la vie éternelle, elle n'est pas quand même absolument éternelle. Vous direz, comment ça? Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle, mais vers l'avenir, vers le futur. Mais cette nouvelle vie des disciples a eu un départ, un commencement. On devient disciple de Jésus. On dit que pour trouver les bonnes réponses, souvent il faut poser les bonnes questions. Une des meilleures questions, à mon avis, qu'on peut trouver dans la Bible, est celle de Nicodème à Jésus, qui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Aujourd'hui, de nos jours, d'ailleurs, comme à l'époque de Jésus, cette question semble enfantine, pour ne pas dire bête. Je me suis dit, comment on va demander si on peut rentrer dans la mer et ressortir? Mais aussi, je dis, il n'y a pas de question bête devant Dieu. Parfois, je peux être un peu bête et poser des questions à Dieu, mais devant Dieu, il n'y a pas de question bête. Et ensuite, cette question déclenche une réponse. Ou peut-être une des réponses avec une des vérités les plus importantes de nos vies comme disciples. Elle amène à la réponse, elle amène à Jésus à parler de la nouvelle naissance, ou comme j'aime bien dire, la renaissance. Autrement dit, c'est le début de notre vie d'éternité étant disciple de Jésus. Et cette étape de Jésus est accompagnée de la naissance d'eau et d'esprit. Nous le verrons. Mais voici une question pour chaque jour de nos vies. Suis-je un disciple de Jésus? Suis-je un disciple de Jésus? Et une partie de la réponse à cette question se trouve dans la conversation qui se passe entre Jésus et Nicodème, que c'est ça que j'appelais le bon départ. Lisons ensemble cette conversation qui se trouve à l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus leur répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit de Dieu, de l'esprit est esprit, pardon. N'était-on pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quel est le moment le plus dangereux de notre vie? Les bacs au lycée? Ouais, quand même. Les premiers entretiens d'embauche, c'est dur, mais Les mariages? Non. Des vacances dans un pays exotique, peut-être, ou un peu dangereux. Quel est le moment le plus dangereux de notre vie? La naissance. La naissance est le moment le plus important et le plus dangereux de notre vie. La première question qui nous vient à l'esprit n'est pas quand le bébé sort, hein, vous savez. Oh, est-ce qu'il a les yeux bleus comme moi? Pas comme moi en soi, mais pour ceux qui ont les yeux bleus. Non, non, on dit plutôt, est-il ou est-elle en bonne santé? On attend tous que le bébé pleure, car ça veut dire qu'il respire. Ça fait 9 mois et demi que ma fille est née, donc je me souviens encore les moments. Je me souviens aussi, ma femme demandait, est-ce qu'elle a toutes les parties du corps? Est-ce qu'elle a tous les membres dans les moments? Et moi, j'ai vu ma fille qui avait une bosse sur la tête, et je demandais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et aussi, j'ai vu des taches là, et je demandais, ça va partir? Finalement, on m'a expliqué les choses. Les spécialistes ont dit, ça peut arriver, c'est pas grave, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, le moment de naître est passé, de la naissance est passé, et on profite de la nouvelle vie. Cependant, 5,4 millions d'enfants meurent chaque année avant leur 5e anniversaire, de nos jours. Si on revient un peu en 1950, il s'était 19 millions, presque 20 millions d'enfants à mourir. Et si l'on continue à remonter dans l'histoire de l'humanité, c'est pire. Donc, même de nos jours, avec tout ce que nous savons en technologie, etc., le moment de départ de notre vie, c'est encore le plus important, voire le plus dangereux pour le reste de nos jours sur Terre. Vous voyez l'importance de ces moments. De même pour la vie chrétienne, c'est pareil. Le bon départ mettra les bases d'une vie chrétienne épanouie. La plupart des personnes dans le monde adoptent la religion, une religion. La religion de leurs parents, de leur peuple, leur village, leur pays. Mais la relation avec Jésus, on ne passe pas ni par les parents, ni les coutumes de son pays. On rentre dans une relation personnelle avec lui. Souvent, on dit, je pense que vous l'avez entendu, que Dieu n'a pas de petits-enfants, mais des enfants. Il est vrai, nous transmettons des valeurs chrétiennes dans l'Église, dans nos vies, dans notre témoignage et les messages de l'Évangile, mais pas une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas les transmettre, nous. Je ne peux pas m'appuyer sur la foi de mes parents, sur la foi de mes amis, etc. Je dois prendre moi-même position devant Dieu. La Bible parle des 3 éléments qui constituent le bon départ d'une relation avec Dieu. La conversion ou nouvelle naissance, la réception du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Nous allons lire Marc chapitre 1, versets 14 et 15. C'est affiché. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus s'en rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Et ce n'est pas pour rien que les titres que les traducteurs de la Bible, moi, dans la version 5:21, ils ont mis pour ce passage, ils ont mis « Premiers disciples de Jésus ». C'est le début de la vie des disciples. Toute notre vie tourne un peu dans nos préoccupations, nos besoins, notre bien-être. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il y a un moment où on rencontre Jésus, on a rencontré Jésus, soit à travers sa parole, des chrétiens qui nous ont parlé, des circonstances de la vie particulière. Son message nous a convaincus, sa parole nous a parlé. L'évangile de Jésus nous propose une nouvelle vie avec Dieu. Conversion, qu'est-ce que signifie? Faire un demi-tour et suivre Jésus. C'est la décision la plus radicale et la plus fondamentale de la vie. Conversion est le début d'une vie avec Jésus. Rien à voir avec la repentance continuelle, quotidienne du chrétien. Conversion concerne notre être tout entier. C'est une conversion de notre volonté, nos pensées, nos actes, nos capacités, notre corps, nos biens. Par la conversion, je reconnais aussi ma responsabilité devant Dieu. Et la conversion règle la question du péché et me délivre du jugement. C'est l'offre du pardon et de la vie éternelle. Donc ça, c'est le premier aspect du départ de la vie chrétienne. Deuxième chose, deuxième aspect, la réception de l'Esprit. Et là, je relis le passage de Jean. « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moi de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître de nous. » Nous avons vu la conversion. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit est le moteur et l'auteur de notre conversion. Il nous montre ce que Jésus a fait pour nous. Il nous touche personnellement par la parole de Dieu. Nous le recevons avec notre conversion. Le terme de la nouvelle naissance démontre l'action du Saint-Esprit. Évidemment, nous ne pouvons pas naître de nouveau par nos efforts. Évidemment, Nicodème, il ne voulait pas dire vraiment qu'on va rentrer dans la mer. C'est vrai que nous devons passer par ces passages obligatoires pour devenir chrétien. Mais Jésus disait cela à Nicodème pour lui indiquer qu'il doit s'exposer au Saint-Esprit. Le message de l'Évangile, c'est nous exposer au Saint-Esprit qui va nous convaincre. Donc même la conversion, le fait que j'ai dit oui à Dieu un jour, ne dépend pas totalement de notre volonté, mais de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il est le moteur de la vie des disciples. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplace Jésus sur terre. Il me montre ma vraie nature et ce que Jésus a fait pour moi. Il m'explique la Bible, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'équipe pour suivre Jésus, pour être un disciple. Il me motive pour faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me transforme au long de ma vie à travers un travail en profondeur. Bref, la Bible nous enseigne qu'une vie de disciple sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Troisième chose dans ce bon début, bon départ, conversion, Saint-Esprit et le baptême d'eau. Marc 16 dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'enseignement du baptême dans le Nouveau Testament est simple. Il y a plus ou moins un ordre biblique. Il y a l'annonce de l'Évangile. Il y a une réaction face à ces messages. Il y a une conversion et il y a le baptême. Mais nous, les hommes et les femmes, nous savons compliquer un peu les choses. Ça arrive. Beaucoup d'eau est passée sous les ponts de l'histoire de l'Église chrétienne. Le baptême, après 2000 ans, c'est un peu compliqué parfois. Ce matin, ce n'est pas une prédication sur le baptême. Je laisse ça à vos pasteurs. Mais je fais une parenthèse un peu personnelle entre nous. notre histoire baptiste, parce que je suis grandi aussi dans des églises baptistes, nous défie, ça c'est une question, nous défie à une bonne connaissance sur le thème, le baptême. Je ne sais pas, mais je trouve au moins intéressant ces sujets. Je ferme les parenthèses personnelles, hein, entre nous, hein. Pas besoin de dire à quelqu'un de la chapelle. Mais en général, qu'est-ce que nous avons fait, nous, avec le baptême? Soit on l'a surévalué, on dit, c'est un sacrement, c'est quelque chose qu'il faut pour le salut. Ou on dit, le baptême, c'est un synonyme de nouvelle naissance, de la conversion. On devient vraiment chrétien si on se baptise. Avant, on ne sait pas. Ou on a dit, le baptême, il transforme les personnes d'un certain âge, petites, en chrétiennes. Mais de l'autre côté, on a aussi sous-évalué le baptême. On a dit, le baptême, ne saute pas, c'est juste. Mais on a fait des baptêmes un peu McDo, pour McDonald's. C'est une phrase que j'utilise. Je vais dire des baptêmes comme ça. Et j'ai fait mea culpa. Parce qu'en Amérique du Sud, en Amérique latine, ça se fait parfois. Par exemple, à Venezuela, il y a quelqu'un de Venezuela? Non? C'est bon? Il y a quelques années, je donne l'exemple parce que j'ai vu, ils ont fait 5000 baptêmes d'un coup. Donc, je ne vais pas parler sur ça, donner mon avis, mais c'est un exemple. Je ne viens pas de Venezuela, je viens de l'Argentine, mais ça peut arriver aussi. Le baptême, ça n'est une obligation pour le salut de nos âmes. Quand même, c'est un commandement de Jésus pour ses disciples. C'est un peu le premier acte d'obéissance qu'on peut attendre d'un jeune chrétien. Quand on devient des disciples de Jésus, on s'est converti, on reçoit l'Esprit, et naturellement, on demande à se faire baptiser. Pour arriver à ma conclusion de ce matin, j'ai deux questions à vous poser. Première question. Suis-je un disciple selon l'enseignement de Jésus? Bien sûr, l'enseignement de Jésus est plus large de ce que je partageais ce matin, parce que ça, c'est le départ. Cette année, j'espère, vous allez voir plein de choses de comment devenir ou améliorer comme disciple de Jésus. Deuxième question, est-ce qu'il y a un élément de ces trois qui manque dans ma vie? Est-ce qu'il y a un des éléments, des trois éléments que j'ai parlé, qui manque dans ma vie? Comme certains parmi vous, mon départ comme disciple n'est pas une histoire peut-être extraordinaire aux yeux des hommes, car j'ai grandi dans une famille chrétienne. Il y a grand-chose à raconter, entre guillemets. Mais attention, toute conversion est extraordinaire aux yeux des cieux, aux yeux de Dieu. Donc je vous encourage, ceux qui viennent aussi des familles chrétiennes, à partager votre témoignage. Dieu l'utilise. Mais bon, je me souviens les jours où j'étais avec mes parents. J'étais assez jeune. Et je me souviens encore où j'étais. J'ai demandé pour parler. Et je les ai dit, je vais suivre Jésus personnellement. J'ai compris que ma foi n'est pas liée à vous, à mes parents, à ma famille, c'est quelque chose de personnel. Je me souviens aussi que pour moi, c'était tellement naturel de me demander, à me faire baptiser suite à cette décision. Chose que j'ai fait un temps après. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit m'a guidé dans cette démarche. Je ne regrette pas le départ de ma vie des disciples de Jésus. Je me souviens et je ne le regrette pas. Chacun et chacune connaît l'état de son âme. Les deux questions qui sont posées nous amènent à deux invitations. D'abord, je vais vous inviter à devenir disciple de Jésus, si ce n'est pas le cas. Je vous conseille vraiment. C'est une invitation, comme avec Nicodème, à renaître et vivre une vie avec Jésus. Mais si cela t'a déjà fait dans un moment de ta vie, si tu as dit, moi je suis disciple de Jésus, gloire à Dieu. Mais j'ai encore une deuxième invitation à te faire. Examine-toi, suis-je un disciple de Jésus? Par rapport à ce qu'on a vu ce matin, mais ce que vous avez vu et vous allez voir cette année. Cette remise de soi-même ne finit pas ici ce matin. J'ai parlé encore d'une partie de la vie des disciples, du départ. Mais l'aventure dure toute la vie sur terre, et même après. Donc, je te défie à te poser cette question à chaque fois que tu vas entendre pendant cette année, à la bonne nouvelle, les mots disciples. Suis-je un disciple de Jésus? Et je te défie aussi à te mettre chaque jour face à face avec la parole de Dieu et de dire, Jésus, je te suis comme tu le désires. Jésus, est-ce que je te suis comme tu le désires? Je vous dis à bientôt. Et simplement, avant de me retirer, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment de silence et de réflexion sur les questions que j'ai posées.